nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman et nous avons la chance, l'honneur et l'avantage de recevoir aujourd'hui Paco Ntielman pour parler de son livre Paris des profondeurs qui vient de paraître au Seuil et des lundis de feuilles de thon dont le deuxième tome vient de paraître aux éditions de l'Apocalypse, deuxième tome qui couvre les années 1978 et 1979, dont Pacôme a écrit la préface. Alors, pour qualifier la préface, j'ai hésité entre différents termes tels que panégyrique, hagiographie, dithyrambe ou apologie. Bon, je trouve apologie un peu faible. Dithyrambe me plaît bien, mais et j'ai pas retrouvé la vie des saints. Là, il y avait un terme.
Hagiographique.
Hagiographie.
Hagiographie, c'est la vie des
saints. En plus, tu connais ce genre de choses.
Bah oui.
Et donc, j'étais fasciné, évidemment, comme tout le monde, par les vies des saints quand j'étais jeune et que on m'inculquait une éducation catholique. Et je ne sais pas, est-ce que tu voudrais parler, présenter l'ouvrage dans son ensemble, ce que c'est ce deuxième tome de Deux Feuilles de Thon, qui est Deux Feuilles de Thon pour les jeunes générations?
Oui, les jeunes. On va vous expliquer qui est Delfeuille de Thon. Delfeuille de Thon, c'est un auteur qui a commencé dans Harakiri. Bon, Delfeuille de Thon, c'est un pseudonyme à l'origine mystérieuse. On ne sait pas du tout pourquoi c'est Delfeuille, pourquoi c'est Thon, pourquoi c'est Delfeuille de Thon. Mais tout a commencé quand, pendant la deuxième interdiction d'Harakiri, à l'époque où le journal était rue Montholon, donc au milieu des années 60, Delfeuille de Thon a envoyé par la poste un premier texte qui s'appelait « Les mémoires de Delfeuille de Thon » par Delfeuille de Thon. Et je crois que c'est l'ensemble, hein, en fait, vraiment l'idée de Delfeuille de Thon vient de l'idée d'un livre qui s'appellerait « Les mémoires de Delfeuille de Thon » par Delfeuille de Thon. Il avait fait plusieurs épisodes qu'il avait envoyés. Et puis, il n'avait pas eu de nouvelles. Bon, bah, le journal était interdit, il ne sortait pas, etc. Puis, à un moment, le journal ressort et puis il voit qu'ils ont publié sans l'avertir. Donc, à ce moment-là, il se renseigne et puis Cavanna lui dit « Bah oui, on n'a pas eu le temps avec tous les ennuis qu'on a eus. Vous croyez qu'on avait que ça à faire, quoi, téléphoner aux auteurs ?» Et donc, il y va. Eux, ils sont très contents d'avoir un nouvel auteur parce que Cavanna, c'était le seul mec à écrire à l'époque dans Harakiri. Et puis, il faisait plein de trucs à côté. Donc c'était un peu chaud et il en a trouvé un deuxième, donc il a trouvé Delfeuille de Thon et très vite ils lui ont dit tu peux pas faire d'autre chose, tu pourrais nous écrire d'autres articles quoi. Et puis Delfeuille, à la différence des gars d'Harakiri, il sortait beaucoup, disons qu'il allait voir des films, il allait écouter des concerts, etc. Eux, ils étaient plutôt vraiment concentrés sur leur journal. Donc du coup il a fait le jazz de Delfeuille de Thon. Il se trouve qu'il connaissait bien le jazz, et le cinéma de Delfeuille de Thon. Mais déjà, c'était en décalé par rapport à l'annonce, c'est-à-dire qu'il était un peu inspiré par le style de Paul Léoto, qui, quand il écrivait des chroniques de théâtre, pouvait parler de tout et n'importe quoi. Bon, à un moment, il parlait de la pièce de théâtre qu'il était allé voir, mais ça pouvait être à la toute fin du texte, quand il avait longuement parlé d'un truc qui n'avait aucun rapport et qui l'amusait de raconter. Et c'était un peu pareil, Delfeuille de Thon, il a utilisé tout ça en biais, quoi. Et il a arrive le moment où Choron décide que pour pouvoir garder tous ces auteurs là qu'ils ont dû récupérer de Pilote quand ils sont ressortis, donc tu vois Cabu, GB, Reiser, etc., il faut leur donner du boulot. Un mensuel ça suffit pas, donc on fait un hebdo. C'est la seule raison pour laquelle il y a eu un hebdo, c'était vraiment parce qu'il fallait faire bosser les mecs du journal. Et donc ils ont dû se mettre à l'actualité, parce que quand on fait un hebdo il faut trouver des sources d'inspiration. Ils n'avaient pas du tout envie de faire de politique à la base, en tout cas c'est ce que Delfeuille raconte dans Ma véritable histoire d'Harakiri Hebdo. Et donc là, il doit créer une chronique hebdomadaire. Et c'est Cavanna qui lui trouve le titre, Les lundis de Delfeuille de Thon. Et c'est une sorte de clin d'œil à Sainte-Beuve. Alors, bon, on en est loin quand on lit Les lundis de Delfeuille de Thon. Mais bon, il a gardé Les lundis de Delfeuille de Thon, même si l'Obs ne sort pas lundi. Quand il est passé à l'Obs, il a cessé un moment, bon, je vais essayer de la faire courte parce que là, les jeunes, sinon, ils ont déjà changé de chaîne. L'hebdo Harakiri devient Charlie Hebdo suite à l'interdiction Pompidou, De Gaulle, mort de De Gaulle, pas le tragique avec Colombé, etc. Et à un moment, Delfeuille quitte Charlie Hebdo. Pendant 6 mois, 7 mois, il travaille à Libé, qui est encore juste naissant, hein, c'est presque un fanzine à l'époque, parce qu'il sait qu'il va aller à l'Obs, mais il veut se préparer, il veut un peu faire d'autres choses en attendant. Et il arrive à l'Obs, et là on est en 75, et il continue ce qu'il avait commencé dans Charlie Hebdo, mais qui va se transformer. Et quel est lundi de Delphine de Thon, qui va faire une fois par semaine. Là où ça se transforme, c'est qu'en fait, pour moi, c'est encore plus fort. C'est-à-dire, il part d'un univers qui est un univers de grande liberté. Un univers vraiment très anarchique, quoi. Et il arrive dans un univers qui est plus policé. Il ne devient pas plus policé. Il doit devenir plus anarchique. Il ne devient pas, il ne met pas de l'eau dans son vin. Il doit mettre du vin dans son vin. Donc les lundis de Delphine de Thon version Lopes, pour moi, c'est encore plus grand. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Hein. Peut-être que d'autres gens auraient des choses à dire. Mais et alors, au début, c'est très composite. Ça reste toujours assez composite. C'est-à-dire que au sein de cette chronique, il va devoir faire un peu de tout dans les lundis de Delphine de Thon. Et quand on arrive en 78-79, ça s'est un peu plus homogénéisé, mais avec quand même à l'intérieur beaucoup de variétés. Mais au départ, il fait une pièce de théâtre, il fait un article purement comique, un truc de pure fiction, ou il fait un commentaire de l'actualité réelle. Et puis, il y a des moments où il veut aussi parler des choses qui sortent. Il veut parler de jazz, il veut parler d'albums de bande dessinée. Il aime pas le terme bande dessinée. Ça peut être de la bande dessinée quand même. Quand c'est GB, c'est quand même de la bande dessinée. Désolé, c'est de la bande dessinée. Mais bref, il va parler de tout ça, il va trouver une forme qui englobe le tout, comme si on va dans une page qui est une page comme un journal à l'intérieur d'un journal. On a Nouvelle Obs, puis il y avait plein de gens, moi j'ai rencontré plein de gens qui disaient je ne l'achetais que pour Delphine de Thon. Et je comprends très bien, parce que moi j'aurais à lire dans l'Obs vraiment, mais on peut l'acheter juste pour Delphine de Thon parce que son espace est en soi comme un journal à l'intérieur du journal, un journal hebdomadaire. Qu'est-ce qui fait le style de Delphine de Thon? C'est vrai que j'ai un côté panégyriste, dithyrambe, apologue.
Alors, je pourrais dire deux choses sur ce que tu viens de dire. C'est qu'il y a aussi des gens qui l'achetaient uniquement pour lire Bretéché.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Et que les deux, s'ils faisaient un tandem formidable à l'intérieur du magazine.
Ouais.
Et que 10 ans plus tard, je travaille dans un journal en tant que journaliste fémino-gauchiste qui s'appelle Enfants d'abord.
Oui.
Et ma patronne lit des feuilles de thon, uniquement des feuilles de thon, dans l'Obs pour se renseigner sur ce qu'il faut lire. Parce que les époques sont différentes. Ouais. Et là, il fait pratiquement plus que de la chronique de livres.
Ouais.
Et donc, elle lui trouve un jugement très sûr et tout.
Bien sûr.
Et ce qui m'a frappé, maintenant que tu as parlé des chroniques de Maurice Boissard, donc oui, celles de Paul Léoto, oui, c'est le rapport au temps. Ce qui est intéressant, c'est un peu comme un journal intime, la lecture que j'ai faite rapide, j'ai survolé le livre de Deux Feuilles de Thon, et l'impression rapide que j'en ai, je l'ai utilisé effectivement comme si c'était mon journal intime, le journal intime de l'époque. L'actualité prend énormément de place. On est en 78-79, il y a les autonomes en Italie, il se passe beaucoup de choses en France. Par exemple, il y a un truc très étrange qui ressort comme un gimmick à l'intérieur de ces chroniques, c'est les procès qu'on fait à Libération.
Ouais.
Pour des questions de mœurs, la pornographie n'était pas encore dans toutes les demeures.
Ouais.
C'est vraiment le grand choc que les gens de ma génération, j'avais 20 ans en 68, c'est le grand choc. Moi, je pensais que la répression sexuelle était nécessaire pour la productivité des travailleurs, que c'est ça qui faisait leur donner cette pauvre vie aliénée qu'ils avaient. Eh bien non, on a totalement libéré le sexe et ils sont toujours aussi aliénés et travailleurs et esclaves. Et donc, il y a au moins 6 récurrences, m'a-t-il semblé, comme ça, en feuilletant rapidement, dans le livre, de procès, de menaces de procès ou de procès réels pour des questions liées à l'homosexualité. Par exemple, oui, l'homosexualité a été encore très, très réprimée.
Oui.
Donc, ce n'est pas si loin. On a vécu, et l'arrivée de la micro-informatique, évidemment, a transformé le monde. Mais ça fait donc, parce que le néolibéralisme lié à la micro-informatique a amené la pornographie, un petit peu comme maintenant. Elle amène la PMA, donc la boucle est totalement bouclée. Il y a des femmes seules qui vont faire des enfants martyrs avec du sperme obtenu en se masturbant en ligne. Eh bien, ce n'était pas possible en 1978 et 1979. Tout était encore interdit pour un oui et pour un non, pour des choses qui nous paraissent absolument invraisemblables avec le recul. Et j'ai une autre anecdote sur l'époque. Je suis arrivé à Paris en octobre 1979. J'ai trouvé une chambre de bonne à la rue des Archives, au coin de la rue Rambuteau. La rue Rambuteau et de la rue des Archives. Il y avait Beaubourg à côté qui venait d'ouvrir depuis pas très longtemps. Et en novembre 1979, il y a eu un fort affichage d'un slogan extrêmement efficace dans le quartier. Et j'ai retrouvé le slogan dans les chroniques de Deux Feuilles de Thon. Il s'agit d'un certain François Pain. Donc il est en prison parce qu'il est à la santé depuis 2 mois pour avoir été photographié avec un sac dans les mains. C'est absolument extraordinaire. À la manif du 23 mars. Donc il est en prison pour ça. Et le slogan, c'était « Plus un jour sans Pain ». C'était magnifique. Donc tu sortais le matin et il était écrit en grand en caractère géant partout. Plus un jour sans pain. Évidemment, je ne comprenais pas de quoi il parlait. C'est beau, quoi. C'est un truc.
Ah oui, c'est beau.
La boucle est bouclée.
Ouais.
Et donc, on envoyait... Bon, ça se fait encore aujourd'hui. Donc, là, sur la répression,
Bien sûr.
La situation est la même. Sur cet aspect-là, ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est plutôt un black box.
Bien sûr. Les autonomes et tout ça.
Les autonomes, oui, c'est exactement...
Mais en fait, c'est assez intéressant parce que cette période-là, en tout cas... Des lundis, Delphine de Thon suit beaucoup les procès. Alors, c'est un truc à dire par rapport au livre, c'est que oui, on suit beaucoup l'actualité de l'époque, mais alors on n'a pas besoin d'aller chercher des infos sur Internet, on comprend tout en le lisant. C'est tellement fluide, c'est tellement bien écrit. Désolé, je vais être un petit peu dithyrambique. Non, mais il y a une telle capacité.
C'est ta nature.
Oui, c'est ma nature. Non, et puis Delphine le mérite. Il y a une telle capacité de synthèse de tous les éléments clés pour qu'on comprenne ce dont il parle. En fait, c'est comme s'il avait pensé chaque lundi de sorte que si jamais la personne n'était au courant de rien de ce dont il allait parler, en lisant le texte, elle comprenait tout. Et ça, c'est assez dingue. Et je me suis rendu compte parce que bon, c'est le deuxième que Menu publie. J'avais lu le premier, je l'avais lu
donc
deux
Jean-Christophe
fois.
Jean-Christophe Menu,
l'éditeur
fondateur
de l'Apocalypse.
De l'association éditeur de l'Apocalypse.
Éditeur de l'Apocalypse. Pardon. Oui, là, moi, par contre, j'ai pas fait mon Delphine là en disant ça. J'ai juste pas précisé. Mais enfin quoi, j'avais déjà sur le premier, ça m'avait frappé. Sur le deuxième, comme en plus, on m'avait commandité cette préface. Bah, j'ai bien fait attention et je regardais. Est-ce que je comprends tout? Mais oui, je comprends tout. Et ça, c'était fou. La seule chose que je suis allé chercher sur internet, mais c'était pour le plaisir, c'est le film sur la fontaine Saint-Michel, qui est magnifique d'ailleurs.
Je connaissais pas le nom du garçon non plus.
Oui, alors comment il s'appelle déjà? On va le donner, je vais le trouver assez rapidement. Comme ça.
Et donc on a pour
Jean Schmitt, le film Comme les anges déchus de la planète Saint-Michel de Jean Schmitt.
On a par contre un événement qui est d'avant-garde par rapport à l'histoire comme s'est déroulée. Elles étaient une centaine ce soir-là, rue des Trois Ports, devant les locaux d'Arakiri Charlie Hebdo. Elles ont écrit sur les murs des Trois Portes Charlie Hebdo détective, même presse sexiste. Sur leur pancarte, on lisait « On en a assez de Bailey », c'est le directeur de détective, enfin vous savez ce que c'est, j'espère pour vous, et de Choron, directeur de Charlie Hebdo, dans un cercueil en carton des exemplaires de détectives déchirés. Plusieurs d'entre elles, il était 8 heures, c'était la nuit, portaient des cierges ou des torches allumées. Elles sont parties en cortège jusqu'à la rue Saint-Denis. Des voitures de flics les suivaient. Rue Saint-Denis, elles ont lancé des slogans contre les sex shops. Arrivées, arrêt au mur ou un quart de CRS les attendait, elles se sont dispersées. Moi, il y avait des exemplaires de Charlie Hebdo dans votre cercueil. Elles, non. Moi, le ministère de l'Intérieur vient d'interdire des détectives. Ça vous fait plaisir? Elles, oui. Moi, vous voudriez qu'il interdise Charlie Hebdo? Elle, non, etc. Donc on a un sujet.
Oui, oui.
Et les féministes, parce que c'était effectivement très, très sexiste. Enfin, plus sexiste que Choron, tu meurs.
Moi, je suis pas d'accord avec cette appréciation, mais j'entends qu'on puisse le voir ainsi. Faut rappeler quand même que, bon, Charlie Hebdo a accompagné évidemment tous les féministes dans leur combat pour légaliser l'avortement, donc le fameux manifeste. Aussi que Delphine a écrit des chroniques extraordinaires pour annoncer les films de Carole Roussopoulos, qui est une très grande féministe.
Qui est la cinéaste du mouvement des femmes.
Absolument.
Debout, là, la chanson et tout.
Voilà.
Copine de Delphine Seyrig, enfin,
de Delphine
Seyrig,
et en particulier le film qu'elles ont fait ensemble, Mazo et Miso vont en bateau, qui critiquait justement la couverture médiatique de l'année de la femme. Qui en faisait une lecture, mais vraiment hilarante, quoi, de, on va dire, d'une, de la forme, on va dire, compassée de l'acceptation du féminisme audiovisuel et même paternaliste, la vision paternaliste. Delfeil, dans le premier volume des lundis, décrit le film, explique à quel point il est drôle, il est intelligent, il est fort, etc. Donc, mais quoi, Delfeil, j'en parle comme si c'était unique par rapport à Harakiri. Bon, c'est-à-dire, c'est vrai qu'à l'époque, il n'est déjà plus Harakiri. Donc, on ne peut pas non plus toujours ramener Delfeil à Harakiri. Mais pour ce qui est de la question de la... Harakiri et, les féministes, c'est extrêmement composite.
Non, restons sur Delfeil de Ton, tu as raison.
Sur Delfeil de
Ton. Il est dans le Nouvel Observateur, tu as raison.
Oui, oui.
Il fait une publicité à Charlie Schlingo.
Ah, oui.
Est-ce que tu veux faire l'apologie de Charlie?
Bah, oui, on peut faire. C'est donc, pas difficile de faire l'apologie de Charlie Schlingo.
Il n'y a aucune raison de le faire. Il brusquement, il se met à parler de lui en disant, il est dans Charlie mensuel, acheté mensuel pour lui, pour Josette d'Orchange.
Oui.
C'est quand même très généreux. Il fait un dithyrambe de Charlie Schlingo.
Mais en fait, il y a des moments géniaux dans les Lundi de Delfeil de Ton, où il fait de la pub pour les choses qui lui plaisent d'une façon extrêmement innovatrice. Par exemple, quand Berroyer sort son premier livre, Rock'n'Roll et Chocolat Blanc, c'est tout le long de la chronique que régulièrement elle est interrompue par des phrases sur Berroyer. Et ça n'a rien à voir avec le reste du sujet. Mais d'un coup, le sujet fait une pause et il dit un truc du type... Berroyer, plus drôle écrivain de France cette année. Grande pénurie d'humour en France cette année sans le livre de Berroyer. Des choses comme ça. Et il reprend et puis il revient dessus. C'est comme des espèces de petits
messages subliminal.
C'est comme un message subliminal. C'est très inventif. Il va aussi annoncer toutes les publications de Bazooka de façon un peu différente à chaque fois. Puis après il y a
Il fait de la pub à Topor pour une pièce qui marche pas du tout.
Bien sûr, en Belgique. Oui, Topor avait Vinci avait raison.
Voilà.
Exactement. Il parle aussi à un moment. Ça, c'est un truc que j'ai dû vérifier parce que je ne savais pas de quoi il parlait. Il parle d'un livre de Pichon, bon, le dessinateur Pichon, qui est encore de notre monde et qui est pas un dessinateur qu'on connaît très bien.
Assez lourd, qui a un humour alors justement.
Oui, voilà, c'est pas mon
grossier.
C'est pas mon truc.
D'une lourdeur épouvantable.
Mais bon, quoi, il est absent. On va pas le charger. Mais Pichon sort un album aux éditions du Square et Delfeil dit il faut l'acheter pour la préface de Choron. Il dit, on n'a jamais vu une préface pareille. Et en effet, bah, du coup, moi, je l'ai commandé chez Rakuten. Il y a les trucs de vente, machin. Il se vend à 1,50€, hein, ce livre, hein, aujourd'hui. Et en fait, dedans, la préface par Choron est en effet absolument hallucinante parce que c'est comme un, vous savez, ces études de médecins qui font des études physio, des médecins du passé qui interprétaient le caractère d'un homme à partir de son physique. Et donc, il fait un portrait
frénologique.
Voilà, c'est un portrait phrénologique de Pichon.
Excellent.
Par Choron. Mais c'est insoutenable. Ça, c'est la préface.
C'est bien, ça.
C'est gentil ou pas?
Ambigu.
C'est ambigu, mais on imagine qu'ils sont copains, quoi.
Alors,
c'est lui qui l'édite, donc.
Un mec qui l'attaque à juste titre, et c'est vachement intéressant pour l'histoire, c'est Volinsky. Il y a une chronique où il attaque Volinsky comme stalinien.
Mais oui.
Et ça m'a fait plaisir de voir ça parce que
les gens
sont tous devenus des saints maintenant, mais non, Volinsky, il était ambigu avec Cuba, avec tout ça.
Bah, c'est pas ça, mais c'est que, comment dire, Volinsky rentrant à l'UMA et soudain, on va dire, comment dire, prenant avec lui toute la charge, quoi, de l'idéologie, c'est vrai que ça passait mal. Et puis Delfeil, le connaissant très bien. Bah, en fait, Volinsky n'était pas stalinien, mais par contre, il joue au stalinien, quoi. Enfin, il faisait celui qui y croyait. Et c'est très drôle. C'est la phrase exacte, en fait, parce que Delfeil, il est choqué à ce moment-là.
Je vais noter la page.
C'est hyper drôle.
Page 82.
Ouais. Alors, mais parce que c'est ça, en fait, la phrase que Volinsky, la phrase que Volinsky dit, c'est, voilà, c'est ça. Ce qui m'a étonné, c'est combien l'UMA est proche de Charlie Hebdo. À Charlie Hebdo, ce sont des prolos qui ont réussi à échapper de leurs conditions. Cavana était un maçon, Reiser un ouvrier. Moi, j'étais employé de commerce dans la boutique de mon oncle. On s'en est sorti. Les dirigeants communistes, c'est la même chose. Prends Roland Leroy, c'est un cheminot. Ouais. Maintenant, il est directeur du journal. Il a un magnifique bureau à l'Humanité. Et alors, le truc du magnifique bureau. Donc ça, c'est vraiment typique de l'esprit de Delfeuil. Il rebondit là-dessus. Il dit Staline avait un magnifique bureau au Kremlin. Et il corrige. Il dit « Désolé, Volin, ça va pas ce que tu dis. Reiser ou Cavana, ils s'en sont sortis par leur talent. Les membres de l'UMA, ils s'en sont sortis en répétant les mensonges de la Russie soviétique. C'est pas exactement la même manière de s'en sortir, quoi. »
Et donc, tu avais raison aussi. Enfin, évidemment que tu as raison, mais
non, pas
tu fais bien de signaler qui fait de la pub à Bazooka, qui est quand même un groupe de punk. Moi, je me souviens quand on était content quand on a découvert ça. On était encore à Lausanne avec Pajac. C'est Pajac, évidemment, qui a acheté le premier magazine. Après, il était amoureux du personnage TV, là, de
Olivia Clavel.
D'Olivia Clavel.
Ah, c'était un fan d'Olivia Clavel.
Tu vois, mais après, quand il a rencontré, c'était différent. Bon, il a rencontré 20 ans plus tard. Mais, c'était vraiment quelque chose de génial, là. Donc, et les dessinateurs de Bazooka dans Libération, dans l'Écho des Savanes, sont en train d'opérer une sorte de révolution dans le dessin de presse.
Ouais.
C'est magnifique, hein,
parce qu'il
fallait être attentif quand même à l'arrivée de Kiki et de Lulu et de
Loulou,
et Loulou et
tout ça. Oui.
Il se passe pas grand chose en général. Ça, c'était une vraie.
Il se passait
quelque chose.
Une
nouvelle génération, vraiment, du niveau de celle d'Harakiri. Hein.
Tout à fait.
Bien. Hein.
Ah, pour moi, c'est la on va dire, c'est la révolution qui a suivi, oui. Ah, enfin, si on parle en termes d'histoire des arts, il y a vraiment un truc avec Harakiri. Ça fait ça modifie tout. Et ensuite, il y a Bazooka et ça remodifie tout.
Et donc,
c'est pas pareil que le reste.
Ouais, pour continuer à donner une idée, tu peux aussi parler du côté free jazz, si tu veux.
Bien sûr. Avec joie. Surtout que, pour moi, j'aime énormément aussi chez Delfeuil celui qui écrit sur le free jazz. Dire, bon, c'est le même mec, hein. Mais c'est un peu moins présent de ces lundis-là parce que Sun Ra ne vient qu'une fois à Paris. Mais dans des précédents volumes, enfin, si on lit le premier volume, par exemple, on a plusieurs venues de Sun Ra. Et à chaque fois que Sun Ra vient, Delfeuil lui fait la fête dans ses textes. Mais là, il y a un autre événement qui est beaucoup plus triste pour Delfeuil, c'est la mort de Mingus. Et ce que je trouve très beau, c'est pour ça que c'est agréable à lire dans sa continuité, c'est un livre comme celui-là, c'est qu'il y a d'abord le moment de la mort de Mingus. T'as dû être sensible à ça. Il décale Duchamp quand Mingus meurt. Ça, c'est une espèce de petite coquetterie de Delfeuil. Il fait d'abord, c'est toujours les Mingus qui meurent. Et ça, c'est très étonnant. Et ensuite, tout le long de l'année, on sent les rémanences de ça. C'est-à-dire que par moment, ici ou là, il va redire un mot sur Mingus, sur la mort de Mingus, il dit, et au bout d'un moment, la mort de Mingus nous laisse inconsolables. Ce qui est émouvant, c'est qu'il y a c'est qu'on est dans la tête de Delfeuil quand on le lit en continuité. En fait, ça se lit vraiment comme un roman. L'émission, ton titre d'émission est bien choisi. C'est-à-dire que ça a beau être des chroniques d'un journal, moi je les lis en continuité. Et en le lisant en continuité, j'ai la même émotion que si je lisais un volume de la Comédie humaine.
C'est formidable. Écoute, merci. On va écouter un petit morceau de musique et merci de ta présentation et de ton apologie de
Delfeuil de Thon. Thank you.
des trains, des murs aujourd'hui. Les gens qui représentent le hip-hop.
Je crois que ce morceau il est assez mature, même s'il parle de graffiti. D'ailleurs, dédicacé à tous les gens qui étaient là, tous les gens qui sont encore là.
Paris, sur les dents.
Dans les annales
comme les temps forts du hip-hop
sur Paname,
c'était alors abreuvé de sensations fortes.
Au-delà de toute description, quand cela te prend,
Paris sous les bombes,
c'était Paris sous les bombes.
Mec, le mieux,
c'était d'hier pour mesurer l'écart.
Et
la multitude d'un bar, Paris allait prendre une réelle.
Clac, clac,
un beau matin
à son réveil,
par une excentricité qui l'amusait la veille.
C'était l'époque graffiti.
Paris avait son règne.
Yeah, yeah. Paris était recouvert.
Et y'a tout le monde dans la salle ce soir.
Alors, je m'appelle Loïc Konanski. C'est moi qui vais vous parler, comme d'habitude, en fait, du dernier livre de Pacôme Thielmont, qui s'appelle Paris des profondeurs. Et donc, Pacôme, qu'est-ce que ça veut dire profondeur ?
Qu'est-ce que ça veut dire profondeur ? C'est profondeur plus dans le temps que dans l'espace, Paris des profondeurs. Moi, c'est l'idée de chaque lieu qui est visité, il a des couches superposées d'époque. Et donc, si on gratte, on finit par trouver une explication à ce qui nous semble énigmatique par rapport à aujourd'hui. Quoi ? C'est toujours énigmatique. Mais ça donne de l'épaisseur, donc ça donne de la profondeur. Et puis c'est l'image de Victor Hugo, que c'est vraiment l'image de l'idée qu'on soulève une trappe, en dessous il y a une crypte, on va en dessous de la crypte, on a encore autre chose, etc. etc. Qui est son image de Paris.
Et donc
j'ai pas trouvé tout de suite d'ailleurs ce texte de Victor Hugo. Il est venu pendant que j'écrivais le bouquin. Et je me suis dit, ça colle complètement, en fait, c'est... Ben, forcément, parce que Victor Hugo... On dit toujours que Victor Hugo a tout écrit, machin. Oui, c'est pas faux. En tout cas, il l'a écrit avant moi, il n'y a pas de doute.
Il a inventé Notre-Dame de Paris, c'est quand même pas rien.
Ben, c'est pas rien, non.
C'est pas rien.
Et donc, tout commence dans un garage, sous un garage du 5e arrondissement. Oui. Qu'est-ce que tu étais venu y faire ?
Garage hermétique, parce qu'en plus c'est difficile d'y rentrer, donc c'est vraiment un garage hermétique pour le coup. Moebius serait content. En fait, en gros, ce qui s'est passé au début, c'était que je passais toujours devant cette espèce d'entrée d'immeuble au 11 bis rue Pierre Nicole, où il y a une fresque. Alors d'abord, il y a des fausses ruines. Il y a une fausse colonne. Il y a une colonne dorique cassée. Et il y a une fresque avec des touristes devant un Paris détruit. Et cette fresque, elle me fascinait. Donc j'ai commencé à creuser un peu pour savoir ce qu'il en était de ce lieu. Et j'ai découvert c'était juste en face d'une crypte qui se trouvait sous la terre, sous un garage. Et en rencontrant la femme qui avait réalisé cette entrée, puis c'était j'ai vraiment enquêté, donc j'ai retrouvé Ngoc Duong. Ngoc Duong, c'était à l'époque où elle avait fait cette entrée, elle sortait tout juste des Arts Déco, et c'était les architectes qui lui avaient pris son projet sur présentation de projet, quoi. Et ni eux ni elle ne savaient, d'ailleurs ils sont jamais rentrés dans cette crypte, ne savaient encore l'existence de cette crypte. C'est quelque chose qui était caché à l'époque.
Oui, mais pourtant c'est.
C'est une crypte très importante.
C'est très important, c'est ça qui est très bizarre.
Ah oui, c'est
le baptême
de
Paris. Qu'est-ce que c'est que cette crypte ?
C'est une crypte, c'est là où Saint-Denis, le patron de Paris, Denis de Paris, a baptisé les premiers Parisiens. Et il se trouvait, c'était en fait à la porte de Lutèce, c'était à l'époque de Lutèce, donc c'est, je sais pas quoi, 3e siècle, quoi. Et 3e siècle après Jésus-Christ. Et en fait, là, comme il était à la porte de Lutèce, il pensait qu'il serait pas attrapé par le préfet. Donc il baptisait les gens à cet endroit-là. Il s'est quand même fait attraper par le préfet. Puis lui, ses deux compères là, c'est des acolytes, son archiprêtre et son archidiacre, sont retrouvés quand même malgré tout décapités tout en haut de la colline Montmartre.
Oui, à la fameuse.
Voilà.
Comment ça s'appelle? Assez marché avec.
Voilà, céphalophore. C'est le miracle de la céphalophorie lumineuse. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as coupé la tête et que tu continues à marcher avec, mais que tu n'es pas juste un espèce de poulet sans tête, on dit que c'est une céphalophorie lumineuse. Pendant un moment, si tu as bien travaillé dans ta vie, si on te coupe la tête, tu peux au moins aller quelque part. Lui, il est allé jusqu'à Saint-Denis, enfin la ville actuelle de Saint-Denis, avec sa tête sous le bras. Il l'a même fait boire à la fontaine. Et puis, une fois arrivé à Saint-Denis, là, il était fatigué, il a donné sa tête à une dame et puis il a disparu en cendres.
Mais quand tu t'arrêtes quelque part dans un lieu chargé d'histoire, est-ce que tu sens les vibrations ondulatoires du passé?
Alors, ouais, je vais pas beaucoup sur ce terrain parce que j'ai trop peur de pas être crédible, si tu veux, parce que je suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais je suis absolument certain qu'il y a une dimension tellurique là-dedans. C'est-à-dire que, tu vois, là, pour le coup, Nok Duong savait pas qu'il y avait la crypte. Les architectes ne savaient pas qu'il y avait la crypte. Et pourtant, ils ont fait un immeuble dans cette rue dont l'entrée renvoie à la destruction de Paris, une espèce de après Paris, tandis qu'ils étaient en face de la crypte où officiait le patron de Paris. Le patron de Paris au moment où il arrive à Paris. Et on est à la porte de Lutèce. Donc il y a quelque chose en alpha et en oméga. Et j'ai repéré ça à plusieurs endroits. Dans le livre, je parle aussi d'un phénomène que je trouve extrêmement troublant. C'est que d'un côté de la rue, là, c'est rue de Rochechouart dans le 9e. D'un côté de la rue, à la même époque, hein, on a les deux disciples de Fulcanelli, le grand alchimiste, donc Eugène Cancelier et Julien Champagne, qui apprennent l'alchimie.
J'ai entendu une interview de Jacques Yonnet qui disait qu'il avait tenu un kilo d'or fabriqué par Cancelier.
Par Cancelier, oui. Ouais. Oui. Alors, c'est des figures incroyables. Et ils étaient là en train de commencer. Et juste en face, on avait la garçonnière d'Henri Landru. Pour moi, c'est un alpha et l'oméga aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que d'un côté,
deux alchimies différentes.
Ah bah, de ce côté, on transforme le mort en vivant. Et de l'autre côté, le vivant en mort. C'est oui, l'alchimie, l'anti-alchimie, on pourrait dire. Mais c'est curieux. Donc cet endroit-là, je pourrais dire aussi, c'est une sorte de point où c'est un alpha et un oméga. C'est un lieu où il y a quelque chose qui circule, d'accord, qui tourne. Donc je suis d'accord avec ce que tu dis. Il doit y avoir quelque chose d'un phénomène vibratoire particulier au lieu.
Et donc, toi, tu parles de peuple isiaque, de la déesse Isis, déesse égypto-grecque.
Oui.
Et pourquoi Paris, c'est un peuple isiaque? Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, c'est-à-dire que l'étymologie de Paris, pendant longtemps en tout cas, on l'a expliqué ainsi. Barque d'Isis. Ça, c'est dans les premiers textes sur Paris.
De la tribu, les Parisis, c'est ça?
Oui. Alors, en fait, le truc, c'est que, les premiers textes sur Paris, on a le fameux poème de la guerre de Lutèce de Abon de Saint-Germain. Et puis, on a le livre, de Gilles Corrosé, qui est le premier guide de Paris, on pourrait dire, La fleur des antiquités. Et ces deux livres-là, bon, l'un qui est du 12e ou 13e siècle et l'autre du 15e, donc c'est quand même des choses très anciennes. Se mettent tous les deux d'accord sur, en tout cas, ils sont tous les deux d'accord sur l'idée que Paris était une ville offerte à la déesse Isis. Et il y avait cette statue de la déesse Isis.
Mais ça leur donne un caractère aux Parisiens spécial? Une mentalité?
Une fonction. Une fonction.
Quelle fonction?
Moi, je dirais que c'est une fonction, en tout cas, qui a vraiment une relation avec la dimension poétique. Et donc, du coup, peut-être que la dimension poétique renvoie à la part féminine de la divinité. Alors ça, c'est possible. Et donc, Paris renverrait à la dimension... Il y a ce truc très intéressant, c'était Breton qui, voyant la place Dauphine et la forme de la place Dauphine, disait... pendant longtemps, je me suis posé la question de savoir quel était le sexe de Paris, dans le sens féminin ou masculin. Il dit, en voyant la place Dauphine, j'ai eu ma réponse. Paris, une ville féminine. Et ça, par contre, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. On parle souvent de Paris au féminin. On a du mal à parler de Paris au masculin. Si on parle de Paris, on va employer le féminin. Ça, c'est un premier truc, ce qui identifie quand même quelque chose. Et je pense que, sur le fond, c'est une ville qui a une fonction, de la façon dont elle est construite, de l'étrange manière dont elle se compose, avec vraiment on a le chemin et le fleuve, et le chemin et le fleuve, ça dessine aussi une histoire. Il y a une histoire vraiment horizontale qui est l'histoire des révolutions qui se fait tout le long du fleuve, parce que vraiment on peut les situer tout le long du fleuve, et on a les ascensions de poètes qui sont toujours sur un mode vertical, et le peuple c'est le peuple des poètes,
voilà,
et ça commence avec Hugo et surtout Nerval qui sont liés vraiment à la déesse.
Ce sont des déesse. Pour toi, ce sont des personnages vraiment organiquement liés à la ville, on a l'impression. Et quel est leur rôle dans l'être de la ville au poète?
Il lui donne sa sacralité, si elle doit en avoir une. Moi, je la vois comme ça. C'est pas une sacralité chrétienne, évidemment. D'ailleurs, ça commence avec un poète qui n'est pas baptisé. Je crois que c'est le premier poète non baptisé, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, il n'a pas été baptisé. C'est quand même intéressant de le savoir. Bah oui, il naît après la Révolution. Il naît après la Révolution. Et donc, ce poète qui est quand même le grand poète français, etc., c'est pas un poète chrétien. C'est pas seulement parce que sa vision de la divinité n'est pas chrétienne.
Il est hugolien, tout simplement.
Bah oui. Et c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup parlé de Dieu. Hein. Il a même écrit un livre qui s'appelle Dieu. Donc, c'est vraiment, là, il parle d'un rapport
à la divinité. Il tutoyait d'égal à égal.
Oui, on peut dire ça. Oui, bah oui, 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 oui. Et pour ce qui est de Nerval, Nerval a été baptisé, mais il a toujours dit de toute façon, j'ai pas une religion, j'en ai 40, j'en ai 50. C'est quelqu'un qui est déjà dans un rapport aussi, qui est aussi dans un rapport absolument multiple. Donc, si on parle d'une sacralité de Paris à travers des poètes qui sont clairement pas des chrétiens. Parce que je crois qu'il n'y en a aucun dont j'ai parlé qui était un chrétien. Je peux me tromper. Hein. Bah, ils peuvent avoir été baptisés, oui. Bon, voilà.
Baudelaire, mais, a été baptisé. Hein.
Baudelaire était baptisé. Baudelaire est sans doute...
C'est un écrivain chrétien.
Non, on ne peut pas dire ça.
Mais le sens de la faute qu'il a, c'est hyper chrétien.
Oui, mais si on commence à rentrer dans la logique de Baudelaire, on va tout exploser.
Son satanisme est chrétien.
Comment
tu ne peux pas le comprendre en dehors de la culture catholique.
Non, par contre, je suis d'accord avec toi.
On revient sur Paris.
Paris. Oui, non.
Alors, tu présentes un Paris un peu comme une matrice, quoi. Elle génère des passions, des conflits, façonne les destins. C'est là que les artistes y jouent un rôle très important, quoi. Peut-être plus que dans d'autres villes européennes qu'on grandit en même temps, non?
En tout cas, moi, ceux qui m'intéressent, je pourrais pas dire par rapport, mettons, à Londres ou à tout ça, mais pour ceux qui, pour moi, ont vraiment un récit à raconter à travers les siècles, quoi, les trois derniers siècles, on va dire, le rapport à Paris est intéressant, même quand c'est un rapport très hostile, comme pour Rimbaud, puisque c'est Parmer.
Oui. Voilà,
vraiment, c'est vraiment Rimbaud, c'est la détestation de Paris, mais ça se comprend. Mais son parcours dans Paris est passionnant, c'est-à-dire que même lui indique quelque chose d'une carte. Pour moi, Paris est impensable sans ces parcours-là. C'est comme s'ils avaient dessiné la carte. Donc, les allers-retours de Nerval entre Châtelet et Montmartre, le fait que Victor Hugo il soit placé juste à côté, d'ailleurs, de la rue Pierre-Nicole, donc à la porte de Paris.
Oui, tu crois pas au hasard, toi?
Si, mais c'est un nom qu'on donne à autre chose, quoi.
Et donc, en fait... J'adore remarquer dans la mémoire partout des distorsions spatio-temporelles, quoi. Ça vient comme tu vas chez Lynch ou chez d'autres scénaristes hollywoodiens.
Oui, c'est vrai.
Et donc tu en as découvert une très belle et tu l'as tabossé dessus, t'as travaillé dessus. On voit que t'as fait une enquête sur Lautréamont. Raconte-nous ça.
Ah, ça c'est passionnant. En fait, donc Lautréamont, lui, dans Paris, il se situe entre la place Notre-Dame-des-Victoires. Et juste au-dessus de ce qu'on appelait le carrefour des suicidés, enfin le carrefour de Châteaudun. Enfin, ce niveau-là, quoi, le niveau des grands boulevards.
Pourquoi? Parce qu'ils se faisaient écraser par des charrettes, c'est ça?
Non,
c'est
quoi? Oui, enfin, bon, c'était les premiers grands boulevards. D'accord. Et en fait, les gens n'étaient pas habitués, ils se faisaient vraiment écraser, tout de suite. Donc, il y avait un nombre considérable de morts à cet endroit-là, au point qu'on l'appelait le carrefour des écrasés, le carrefour Châteaudun. Et donc, à peu près à ce niveau-là, on a les quatre déménagements de Lautréamont. Et en fait, il se trouve que lorsqu'il écrit, enfin, Isidore Ducasse, donc, hein, le vrai nom du comte de Lautréamont, Isidore Ducasse, et Lautréamont, c'est l'auteur des Chants de Maldoror, donc c'est lui avec son pseudonyme, et c'est complexe parce qu'il y a vraiment, c'est comme un double, c'est pas tout à fait. Ouais, c'est très étrange. Et en fait, quand il écrit le cinquième chant, vous voyez, les Chants de Maldoror, c'est très net que le récit commence jamais. C'est-à-dire que ça, il passe son temps à dire qu'il racontera plus tard dans le livre que, etc. Il ne va pas le faire. Et puis d'un coup, chant 5, commence un roman. Voilà, vraiment, vers la fin, quoi, parce qu'il n'y a que 5 chants. Hein. Donc, chant 5 commence un roman avec un espèce de jeune homme, Merwin, qui se balade, machin, et derrière, il y a la Maldoror qui le suit, qui veut aller le tuer. Et en fait, il le suit dans le périmètre de la rue Vivienne de la Bibliothèque nationale. Et alors, dans son parcours, on voit apparaître un hibou qui s'enfuit de peur, un coq qui hurle et un rhinocéros dans lequel s'est caché Dieu, enfin ce que Lautréamont appelle le créateur. Il s'est caché dans un rhinocéros. Et en fait, Maldoror tue par balle le rhinocéros et Dieu s'enfuit comme un lâche, le créateur s'enfuit comme un lâche pour pas mourir sous le coup du revolver de Maldoror. Et en fait, quand on fait le parcours dans le périmètre où a vécu Isidore Ducasse, on retrouve et c'est fou, on retrouve la chouette et le coq à l'angle de la Bibliothèque nationale, le coq très gros et la chouette tout en haut, toute petite, et juste à l'entrée du parc des Tuileries, juste à l'entrée, on a un rhinocéros en train de se faire dévorer par un lion. Alors on se dit, bon, il les a inscrits dans son livre, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils sont arrivés après la mort de Isidore Ducasse dans le quartier. C'est-à-dire qu'on a
prémonition.
Ah bah, c'est fou, oui.
Univers parallèle.
Eh ben, moi, je pense qu'il s'est déplacé dans le temps. Je pense qu'il a fait. Je pense que, comme c'est un inspiré, c'est un visionnaire, Lautréamont, alors qu'il dérivait dans son propre quartier, il a eu les visions de ces trucs-là, comme ça, comme si c'était, il avait voyagé, et il les a inscrits dans son livre. C'est-à-dire, il s'est dit, tiens, ce serait drôle si là, un rhinocéros sortait. Ben, il a vu le rhinocéros, mais qui sera là que 20 ans plus tard.
Et tu montres aussi que Rivette aussi est chargé comme ça un peu.
Ah oui, oui, le cinéma de Rivette, c'est incroyable.
Paris nous appartient, c'est ça ?
Alors, il y a Paris nous appartient, qui est sublime, c'est son premier film, mais ça se déploie dans toute sa cinématographie.
Oui, bien sûr.
Et il y a des
parce qu'il recoupe Balzac, et donc c'est les lieux de Balzac.
Alors, il y a Balzac, bien sûr, dans Out, et dans La Belle Noiseuse et d'autres. Et il y a surtout, ce qui est étrange, c'est là, c'est vraiment l'esthétique de Rivette, c'est que les endroits clés, il les filme de telle sorte qu'on les reconnaisse pas trop. En fait, il supprime la statue, il se met de telle façon.
Avec le côté anecdotique. Pas.
Anecdotique ou comment dire, en retirant le symbole, il te met à la place de lui, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il le fait réapparaître autrement. Et la scène clé du début d'Histoire de Marie et Julien se situe sur la place où aujourd'hui on a le centaure de César qu'il a retiré, mais où en fait avant il y avait la statue d'Isis qui a été détruite par un prêtre au Moyen Âge et dont parlent tous les anciens historiens de Paris. Cette fameuse statue d'Isis qui marquait l'adhésion de la ville à la déesse Isis.
Et derrière,
et c'est là où commence son film.
Derrière tout ça, on aimerait bien savoir s'il y a des forces, quelles forces agissent derrière tout ça. C'est des forces, le bien, le mal, c'est quoi ? Il y a un combat au niveau de la représentativité ?
Il y a un combat.
Oui.
Ouais, moi, j'essaye au minimum d'utiliser des termes comme ça parce que le problème de mal et de bien, c'est que chacun met un truc différent derrière.
Bien sûr.
C'est tout ça pour ça, même dire Dieu, tu vois, c'est compliqué. Moi, je m'en mêle assez peu. En même temps,
compliqué.
Je veux parler de ça, en fait, souvent derrière Dieu, les gens mettent où un espèce de père fouettard.
Une grande phrase de Paco Mielmont. Dieu, c'est compliqué. Hein,
mais est-ce qu'on peut dire énergie
de ma gueule.
Énergie positive, négative.
Oui, mais en tout cas, il y a des
énergies.
Ouais, oui, il y a un conflit. Mais c'est
évident. Des conflits d'énergie.
Parce que ne serait-ce que sur l'histoire du parcours des gitans ou des choses comme ça, on sent bien que dans la ville de Paris, il y a un conflit de force très net. Et très typiquement la littérature de Victor Hugo, celle de Balzac, la poésie de Nerval, etc. En sont les témoins frappants. Mais on retrouve ça, en effet, là on parle de choses du 19e siècle, pour moi ça traverse beaucoup d'époques de Paris. C'est vrai qu'il y a eu assez peu de choses liées à l'identité de Paris avant le 18e. On pourrait dire c'est Restif de la Bretonne et Sébastien Mercier qui ont commencé un peu ce travail-là, de donner une identité à Paris par la dérive, par la balade, par le fait de marcher.
Mais quand même, quand Jean-Jacques Rousseau arrive à Paris, exemple, on a Paris.
C'est-à-dire c'est vrai.
Le regard de l'extérieur nous montre un Paris très, très existant.
Ah oui, tout à fait.
Avec des mœurs. Il y a Versailles, et à un moment donné, ça bascule à Paris. Donc, il faudrait trouver le moment où on a hâte d'aller à Versailles et on vient à Paris. Je pense que Rousseau, c'est typique, les encyclopédistes.
Tu as raison.
Tu évoques le poète Christian Guèze-Ricord.
Oui.
Et qui à la fin du XXe siècle avait une relation il était presque contemporain quoi. Enfin, je veux dire, il est mort dans les années 80.
Tout à fait.
Il avait une relation lui quasi médiumnique avec sa ville, Marseille.
Absolument, oui, complètement.
Et quels sont les poètes qui ont eu ce rôle réellement médiumnique avec Marseille, conscient, parce que lui c'était conscient chez lui cette chose-là.
Alors, je connais pas assez Marseille pour le dire, mais c'est sûr, Christian Gabriel Guèze-Ricord, il y a un truc, il l'appelait la ville sans nom, parce que c'est vrai qu'à un moment, elle a pas eu de nom, mais aussi c'est à cause de l'arcane sans nom, et il a un rapport à la géographie de Marseille qui est très proche de le rapport que Nerval pouvait avoir à la ville de Paris, oui. Okay. C'est-à-dire qu'il,
Tu as vu le film de Stéphane Saint?
Mais bien sûr, c'est comme ça que j'ai appris l'existence de Christian Gabriel Guèze-Ricord. C'est par son film.
C'est un très beau film, non?
Mais c'est un super film. Mais bien sûr, mais tu dois le connaître aussi par Marie Moore et tout
bien
ça.
Bien sûr.
Bien sûr. Non, mais en fait, moi, l'amour que j'ai pour la poésie de Christian Gabriel Guèze-Ricord, je dois une fière chandelle à Stéphane Saint et à son film, parce que moi, avant, je crois que j'avais lu le nom de Guèze-Ricord dans une poésie revue de poésie, qui s'appelait Courant d'ombre, enfin une revue sur la poésie plus exactement, qui est consacrée aux poètes maudits, etc. À travers le temps, j'avais un peu remarqué qu'il y avait des choses comme ça. Mais je l'ai vraiment découvert par ce film. Donc, s'il nous entend, salut.
Il va t'entendre, je pense.
Ok.
Alors, ça veut dire que si tu faisais le même travail avec Clermont-Ferrand ou Bourges, qu'est-ce que ça donnerait?
J'aimerais beaucoup parce que c'est des villes qui m'intéressent beaucoup aussi. En fait, le truc, c'est que par contre, faut y vivre et faut y rester un an pour écrire un livre comme ça.
Et tu veux dire, c'est plutôt chiant.
Non, c'est pas ça. C'est que ça demande une autre vie.
Un an à Bourges, ça te transforme.
Mais oui, je sais, j'adore. Ouais. Mais j'adore la maison L'Allemand à Bourges.
Il y a la veuve Bazin, mais je ne sais pas si elle vit encore, qui habitait à Bourges et qui a fait beaucoup de pourtour du cinéma.
André Bazin, elle était là-bas. Waouh.
Mais bon, c'est anecdotique, mais bon.
Non, mais et Bourges et Clermont-Ferrand sont des villes avec lesquelles j'ai une forte attache sentimentale.
Je les ai sorties par hasard, hein. J'aurais pu sortir.
T'es un peu médium, toi aussi.
Bah, sûrement. Et en fait,
essaye de faire tourner la table.
En fait, pour toi, Paris, c'est une entité poético-métaphysique, quoi.
C'est une personne.
C'est une personne, voilà.
Ouais. C'est une personne.
Mais on est un peu tous d'accord. Ouais. On a tous un fort animisme par rapport
c'est
à
vrai,
Paris.
C'est vrai, obligatoirement.
Et par exemple, moi, qui ne suis pas du tout parisien, j'avais 30 ans quand je suis arrivé pour venir m'installer à Paris. Ça fait 40 ans que j'habite ici. C'est chez moi. Et avec ce côté pas chez moi, hein, qui est typique de Paris.
Oui, oui.
Et tu veux pas commencer à faire comme si tu avais des racines. C'est le contraire, en fait. C'est quelque chose de flottant. Mais il y a une culture au mètre cube absolument extraordinaire, où qu'on soit.
Est-ce que tu sens tout ça? Donc ça te... Toi, tout ce que tu as étudié, ce qu'on sent, les résonances comme ça, ça fait des strates et des strates de temporelles, d'aventures humaines qui se superposent depuis 2000 ans presque.
Oui.
C'est lourd, non? Il y a quelque chose de lourd là-dedans.
Ça dépend. C'est chargé.
Oui.
Je sais pas si c'est. Voilà, tu vois, c'est un peu différent de lourd, je sais pas.
Ça peut rendre aérien, moi, je trouve. Mais enfin, j'ai un bon rapport à la culture. Je trouve. sur plutôt que, justement, par exemple, si on prend la poésie d'Hugo, c'est encore mieux que ses romans. Enfin, tu vois, je veux dire, enfin, c'est 100 fois mieux que ses romans. Mais c'est ce côté, le rythme, là, tu as passé NTM.
Ouais, ouais.
C'est la même chose, quoi. Il y a quelque chose à Paris qui nous porte.
D'accord. Mais est-ce que tu as été dans d'autres villes, des grandes mégalopoles,
oui,
où tu as senti quelque chose de spécial?
Oui. Oui, bien sûr. Bah oui, mais tout le monde, mais typiquement, oui, une ville qui m'a aussi passionné pour le rapport entre les histoires humaines et la géographie, c'était Londres. Mais quoi, il y a plein de gens qui ont écrit sur Londres là-dessus, donc
la dérive a été inventée à Londres, c'est un autre esprit.
Ouais.
Mais à Londres, tu as la révolution industrielle, tu as Dickens, tu as tout ce côté chemin de fer, pont, la Tamise est beaucoup plus présente.
Et puis Jack l'Éventreur.
Il y a quelqu'un qui m'a dit un truc intéressant à Paris, mais on n'a plus que 2 minutes d'émission.
Premier psychogéographe.
Mais c'est que le bord du fleuve est moche et puis que la Seine est moche à Paris. C'était intéressant. Par exemple, ça m'a choqué. Et puis, elle avait la voix Pompidou. Comme on souffrait, quoi. Quand, à un moment donné, ils font la voix exprès, ça, c'est un véritable viol. Donc, on a quand même une identification assez forte.
Ah oui.
Et
bien sûr, puis c'est une ville qui a été régulièrement violée, on peut
et
dire.
Donc là, et c'est une ville qui se conserve, pardon, c'est une ville qui se conserve, qui s'amène même, qui se conserve de façon remarquable par rapport à d'autres villes. Je crois qu'on va bientôt voir ce dernier.
Alors on va conclure. C'est le hasard ou la volonté, ou tu cherchais quelque chose, ou tu t'es laissé, quelle est la part de hasard dans ce travail?
Bah, en fait, la barre de hasard, c'est plus, en fait, je dirais, c'est plus de l'ordre de la conjuration ou de la convocation. C'est-à-dire, ou de l'invocation, peut-être. Mais il y a forcément, il y a beaucoup de hasard, mais en fait, je l'ai demandé. C'est-à-dire que, en gros, je suis allé à la découverte de Paris. Quand j'ai écrit ce livre, je partais et je voulais voir des choses. Donc, évidemment, il y a un truc, mais je voulais que ces choses me surprennent. Donc,
c'est combien de temps de travail?
Alors c'est d'écriture continue 2 ans, mais sinon c'est une vie à Paris, quoi, ou presque.
Et de semelles de chaussures.
Ah oui, moi, j'ai usé plusieurs chaussures, oui. C'est bien vu, hein. Il y en a plusieurs que j'ai jetées, oui.
tu marches tout le temps, en fait. Tu n'as pas, oui, tu possèdes pas une voiture. Tu
non, j'ai pas
ni
de voiture,
un vélo, ni un scooter,
ni un vélo. Et à part quand il pleut, je marche. Oui.
Mais...
Et quand il pleut, bon, bah je prends le métro.
Écoute, on est content de t'avoir vu, hein. On attend avec impatience le prochain volume. Le livre va commencer déjà. Tu nous diras
de quoi il s'agit. Un prochain, mais bon, quoi, il faudra un peu de temps pour le terminer.
C'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet qu'on se renseigne?
Vous verrez.
C'est un secret.
Oui, c'est un. Et c'est le sujet, c'est le secret.
Le secret.
Okay.
Je deux médias,
merci Paco.
Merci Paco.
Et merci à Mazir Amadine Guest, qui est de l'autre côté de la vitre. Merci
à Mazir Amadine Guest.